Chapitre 35. Les villes de refuge. Les villes des Lévites. Les premières lignes de ce chapitre placent devant nous une miséricordieuse disposition de Dieu en faveur de ses serviteurs les Lévites. Chacune des tribus d'Israël, selon sa capacité, devait fournir aux Lévites un certain nombre de villes avec leurs faubourgs. Toutes les villes que vous donnerez aux Lévites seront 48 villes, elles et leurs banlieues. Et quant aux villes que vous donnerez sur la possession des fils d'Israël, de ceux qui en auront beaucoup, vous en prendrez beaucoup, et de ceux qui en auront peu, vous en prendrez peu. Chacun donnera de ces villes aux Lévites à proportion de l'héritage qu'il aura reçu en partage. Versets 7 et 8. Les serviteurs de l'Éternel étaient entièrement dépendants de lui pour leur subsistance. Ils n'avaient ni héritage ni possession, si ce n'est en Dieu. Héritage béni. Il n'y en a point de semblable pour la foi. Heureux tous ceux qui peuvent réellement dire « L'Éternel est la portion de mon héritage et de ma coupe. » Psaume 16, verset 5. Dieu prenait soin de ses serviteurs et accordait à toute la congrégation d'Israël le privilège d'être associé avec lui pour pourvoir aux besoins de ceux qui étaient voués à son service. Six villes de refuge. Ainsi donc, nous apprenons que dans les 12 tribus d'Israël, 48 villes avec leurs faubourgs devaient être données aux Lévites, et dans ce nombre, 6 villes avaient été choisies pour servir de refuge aux meurtriers involontaires. Les villes de refuge étaient situées 3 à l'est et 3 à l'ouest du Jourdain. Dieu, dans sa miséricorde, ne voulait pas laisser le meurtrier sans refuge contre le vengeur du sang, même dans le territoire occupé par Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Il avait pris soin que les villes désignées comme refuge pour le meurtrier soient à sa portée. Il y avait toujours une ville à la portée de celui qui pouvait être exposé à l'épée du vengeur du sang. S'il arrivait qu'un meurtrier tombe entre les mains du vengeur du sang, ce n'était pas parce que le refuge avait manqué, mais parce qu'il n'avait pas su en profiter. Les villes étaient bien définies et publiquement connues. Tout était rendu aussi clair que possible. Telles étaient les voies miséricordieuses de Dieu. Sans doute, il était du devoir du meurtrier involontaire de déployer toute son énergie pour atteindre le territoire de la ville de refuge, et sans doute, il le faisait. Il est peu probable que quelqu'un ait été assez insensé pour se dire « Si je suis destiné à échapper, j'échapperai. Et si je ne dois pas échapper, je n'échapperai pas. Je ne bouge pas. » Le meurtrier n'avait qu'une seule chose à faire pour sauver sa vie, fuir le jugement imminent en atteignant un abri sûr au-dedans des portes de la ville de refuge. Une fois là, il pouvait respirer librement. Aucun mal ne pouvait l'atteindre. Il était en parfaite sécurité. Il est vrai qu'il devait prendre garde. Il n'osait pas s'aventurer hors des portes. Il ne pouvait pas même visiter ses amis. C'était un exilé. Toutefois, ce n'était pas un prisonnier sans espoir. Absent de chez lui, il attendait la mort du souverain sacrificateur qui devait le rendre complètement libre et le rétablir dans son héritage au milieu de son peuple. Israël, coupable de meurtre. Or, nous croyons que cette belle institution se rapporte spécialement à Israël. Ils ont tué le prince de la vie, mais il s'agit de savoir comment ils sont envisagés par Dieu. Comme assassin ou comme meurtrier involontaire? Si c'est comme assassin, il n'y a pas de refuge, pas d'espérance. Aucun assassin ne pouvait s'abriter dans une ville de refuge. Voici la loi telle qu'on la trouve en Josué 20. Et l'Éternel parla à Josué disant, « Parle aux fils d'Israël en disant, « Établissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par Moïse, afin que l'homicide, qui, par mégarde, aura frappé à mort quelqu'un sans le savoir, s'y enfuit. Et elles vous serviront de refuge devant le vengeur du sang. Et l'homicide s'enfuira dans l'une de ces villes, et il se tiendra à l'entrée de la porte de la ville et dira aux oreilles des anciens de cette ville l'affaire qui lui est arrivée, et ils le recueilleront auprès d'eux, dans la ville, et lui donneront un lieu pour habiter avec eux. Et si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'homicide en sa main, car c'est sans le savoir qu'il a frappé son prochain. Il ne le haïssait pas auparavant. Et il habitera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant l'assemblée, jusqu'à la mort du grand sacrificateur qui sera en ces jours-là. Alors, l'homicide s'en retournera et reviendra dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Josué 20, verset 1 à 6. Mais pour l'assassin, la loi était rigoureuse, inflexible. Le meurtrier sera certainement mis à mort, le vengeur du sang mettra à mort le meurtrier, quand il le rencontrera, c'est lui qui le mettra à mort. Nombre 35, versets 18 et 19. Israël, par la grâce bienveillante de Dieu, sera traité comme un meurtrier involontaire et non comme un assassin. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Ces paroles puissantes montèrent à l'oreille et au cœur du Dieu d'Israël. Ce peuple est maintenant sous la garde de Dieu. Ils sont exilés du pays et de la maison de leur père, mais le temps vient où ils seront établis dans leur pays, non par la mort du souverain sacrificateur, il ne peut jamais mourir, mais lorsqu'il quittera la place qu'il occupe actuellement et se présentera dans un nouveau caractère comme sacrificateur sur son trône. Alors, Israël retournera dans sa patrie longtemps perdue. Et maintenant, frère, dit Pierre, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Acte 3, verset 17. Les passages cités placent Israël sur le terrain du meurtrier involontaire et non sur celui de l'assassin. Dieu a procuré un refuge et un abri à son peuple bien-aimé, en sorte que, au temps voulu, ils retourneront dans leur demeure perdue depuis longtemps, dans cette terre que l'Éternel donna pour toujours à Abraham, son ami. Application aux pécheurs. Nous croyons que telle est la vraie interprétation de l'institution des villes de refuge. Si nous devions la considérer comme s'appliquant au cas d'un pécheur prenant son refuge en Christ, ce ne pourrait être que dans une mesure très limitée. En effet, il y a davantage de contraste que de ressemblance. Car, en premier lieu, le meurtrier, dans la ville de refuge, n'était pas exempt de jugement, comme nous l'apprenons par Josué 20, verset 6. Mais pour le croyant en Jésus, il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de jugement, pour la simple raison que Christ a porté le jugement à sa place. En outre, celui qui avait tué par mégarde pouvait tomber entre les mains du vengeur s'il s'aventurait hors des portes de la ville. Le croyant en Jésus ne peut jamais périr. Il est aussi en sûreté que le Sauveur lui-même. Un seul grand point est commun à l'homicide involontaire et au pécheur perdu. C'est l'exposition à un danger imminent et la nécessité pressante de s'enfuir pour trouver le refuge. Cependant, le vengeur pouvait ne pas réussir à mettre la main sur le meurtrier qui n'était pas réfugié dans la ville, tandis que le jugement atteindra infailliblement tout pécheur qui est resté en dehors de Christ. Si l'un de nos lecteurs est encore dans ses péchés, puisse-t-il ne pas trouver un instant de repos avant de s'être enfui pour chercher le refuge, pour saisir l'espérance qui lui est offerte dans l'Évangile? Le jugement est suspendu, sûr, certain, solennel. Il doit tomber sur tous ceux qui sont hors de Christ. Lecteur inconverti, laissez-nous vous supplier, dans ces dernières lignes, de venir maintenant, tel que vous êtes, à Jésus qui est là, les bras ouverts et le cœur plein d'amour pour vous, prêt à vous recevoir, à vous abriter, à vous sauver. « Venez à moi, dit-il, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Chapitre 36. Les filles de Tselophkhad. Suite. Le dernier chapitre du livre nous donne la suite de l'histoire des filles de Tselophkhad, l'intervention des chefs des pères de la tribu de Manassé. Nous l'avons déjà considéré dans le chapitre 27 et nous n'y revenons pas.